VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Billon.
Bonjour à tous, il est 11h en temps universel. Le président zimbabwéen Robert Mugabe a offert un chèque de 60 000 $ pour l'anniversaire de sa belle-sœur à l'heure où le Zimbabwe traverse une grave crise économique et une pénurie de liquidités, rapporte aujourd'hui le quotidien d'État. Selon le Herald, le président âgé de 93 ans et son épouse Grace ont donné 60 000 $ à Madame Junior Gumbo Shumba pour la remercier de son rôle clé dans l'éducation des enfants de la famille présidentielle. Madame Gumbo Shumba, sœur de la première dame du Zimbabwe et pasteur de profession, a célébré son 60e anniversaire dimanche en compagnie de Grace Mugabe qui fêtait, elle, ses 52 ans dans une ferme de Shamva dans le nord-est du Zimbabwe. Les deux principaux protagonistes de la crise en Libye, Fayez al-Sarraz et le maréchal Khalifa Haftar, devraient se rencontrer demain à Paris pour, sous les auspices du président français Emmanuel Macron, en présence du nouvel émissaire des Nations Unies pour la Libye, Hassam Salamé. Fayez al-Sarraj, soutenu par l'ONU et l'Occident, et son rival, le maréchal Khalifa Haftar, se sont déjà rencontrés début mai à Abu Dhabi. Trois personnes ont été tuées dans un double attentat à suicide commis dans un camp de déplacés proche de Maïdougouri, la capitale du nord-est du Nigeria. L'attaque a eu lieu dimanche soir dans le camp de déplacés de Dalori 1, a expliqué Abdul Kadir Ibrahim de l'Agence nationale de gestion des urgences, l'ANEMA. Le camp de Dalori est situé à une quinzaine de kilomètres de Maïdougouri et accueille quelques 50 000 déplacés et est fréquemment la cible d'attaques suicides. Au Mali, retour volontaire de plus de 60 000 réfugiés qui vivaient en Mauritanie pour rapatrier ceux qui se trouvent encore dans ce pays. Une rencontre tripartite a réuni Maliens, Mauritaniens et le HCR à Bamako. Compte rendu, Kassim Traoré.
6 mois après la signature de leur plan de travail, beaucoup d'actions concrètes ont été menées. Pour la partie mauritanienne, ce rythme de travail doit être maintenu. Mahamada Ould Meynou, directeur de l'administration du territoire de la Mauritanie.
Au terme de cet accord, les trois parties s'engagent à respecter le caractère volontaire de rapatriement dans la sécurité et la dignité, en garantissant les droits des réfugiés à la protection internationale et leur intégration dans les zones de retour.
Bien avant l'application de cet accord tripartite, certains réfugiés maliens sont de retour au Berkay. Samba Alhamdou Babi, secrétaire général du ministère de la Solidarité et de l'Action humanitaire.
Nous avons enregistré à la date du 30 juin 2017 le retour volontaire et spontané d'environ 60 094 personnes rapatriées. Le renforcement en ressources humaines de 28 points d'arrêtement dans 20 communes à forte concentration de personnes rapatriées. 143 103 réfugiés maliens enregistrés dans les pays d'asile et le retour effectif de 498 170 personnes déplacées internes.
Pour faciliter la réinsertion sociale de ces rapatriés et même des populations des régions nord du Mali, le gouvernement est en train de préparer le retour de l'administration dans ces zones. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Burkina Faso, les autorités sanitaires se préparent à faire face avec la saison des pluies au risque d'épidémie de paludisme, mais aussi et surtout au risque de résurgence de la dengue, une maladie qui avait frappé le pays en 2016. La lutte s'accentue contre les moustiques, principaux vecteurs de maladies de l'heure. Écoutez les précisions du docteur Brice Bikaba. Il est le directeur de la lutte contre la maladie au ministère burkinabé de la Santé.
Nous sommes déjà dans la saison pluvieuse et notons déjà une augmentation des cas de paludisme comme chaque année. La dengue, c'est une pathologie qui est émergente. C'est une maladie qui se développe surtout dans les milieux urbains, avec donc une prédilection dans les domiciles, utilisant les eaux des Canaries, des pneus, les eaux donc qui stagnent. Nous avons prépositionné les médicaments dans les 13 régions. Nous sommes en train de mettre également un système de surveillance. Dans certains sites, comme message, c'est de dire aux populations d'utiliser les moustiquaires imprimés en longue durée d'action, de se protéger d'une manière générale contre les piqûres de moustiques en utilisant les répulsifs, autres moyens que l'on a.
Docteur Brice Bikaba du Burkina Faso. Au Cameroun, les malades souffrant d'insuffisance rénale font face à une pénurie de kits dont ils ont besoin pour leur séance de dialyse dans les hôpitaux publics. Pour exprimer leur mécontentement, ils organisent des sit-ins comme ça a été le cas à deux reprises la semaine dernière à l'hôpital général de Yaoundé. Le gouvernement a pour sa part annoncé une distribution dès ce lundi de kits dans les centres de dialyse du pays à Yaoundé. Reportage de notre correspondant Emmanuel Jules Ntap.
À l'hôpital général de Yaoundé, les patients d'insuffisance rénale, toutes tranches confondues, protestent contre la pénurie de kits de dialyse.
Les kits qui sont là nous permettent juste de dialyser une fois après 7 jours. En dehors de ça, il n'y a rien. Et le même ministre ne dit rien. Il ne se présente pas. On a fait 2 grèves en début de semaine. Il n'est pas passé. Tout ce qu'il a bien pu faire, c'est juste appeler le directeur de l'hôpital et demander au directeur de l'hôpital de nous calmer.
Il devait faire 1 an, 8 mois de dialyse. Quand on a grévé, alors on a dit que le remède vient dans 1 semaine. Depuis, ça fait déjà 2 semaines, rien.
Atteint d'insuffisance rénale depuis 4 ans, Aloïse Ovidi est un habitué de l'unité dialyse de l'hôpital général de Yaoundé. Il dit vivre une situation sans précédent en sa qualité de coordonnateur national d'hémodialyse, sorte de syndicat qui défend les intérêts des patients d'insuffisance rénale au Cameroun.
Depuis 3 semaines, on a perdu 5 personnes. On n'était pas préparé pour dialyser une fois. Pardon, même à 8 jours sans dialyse. Nous, maintenant, c'est le potassium. On ne mange pratiquement. On est vraiment désespéré. Si on est préparé à la vérité, on peut vraiment survivre. Mais on nous trompe chaque jour. Vous voyez, on vous dit que demain, vous allez commencer à dialyser 2 fois. Vous prenez des excès. C'est le potassium qui vous met à genoux.
170 patients pour 9 appareils de dialyse fonctionnelle, 4 chambres de 2 à 3 lits pour recevoir autant de personnes chaque semaine à l'hôpital général de Yaoundé. Le déséquilibre entre l'offre et la demande en matière de séances de dialyse est criard. Joint au téléphone, le chef de la cellule de communication du ministère de la Santé publique expliquera pourquoi l'insuffisance des kits de dialyse prend des proportions inquiétantes à l'hôpital général de Yaoundé, Roger Mamoun.
Ils ont un effectif assez lourd et le nombre de kits ne suffit plus parce que justement tous les appareils ne fonctionnent pas. C'est pour ça qu'on a réduit dans le nombre de séances de dialyse. Pour ceux qui ne veulent faire 2 par semaine, ils font 1 par semaine. La seule difficulté, c'est que les gens ne respectent pas les fréquences de dialyse. Et tant que les kits seront là, on va faire fonctionner les autres appareils.
Dans un nouveau communiqué rendu public par le ministre de la Santé publique, André Mamafouda a annoncé pour cette semaine la distribution de nouveaux kits de dialyse dans les hôpitaux concernés. Une promesse qu'il avait déjà faite le 30 juin dernier, sans changement majeur. Emmanuel Jultap, Yaoundé, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Washington, il est 7h08. Jared Kushner, le gendre conseiller spécial de Donald Trump, sera entendu à huis clos ce lundi par les sénateurs de la commission du renseignement qui enquête sur d'éventuelles collusions entre l'équipe de campagne du président américain et la Russie. Mardi, ce sera au tour des membres de la commission du renseignement de la Chambre des représentants de l'interroger. Les élus veulent notamment l'entendre sur une rencontre avec l'avocate russe Natalia Veselnitskaya qui s'est tenue à la Trump Tower de New York le 9 juin 2016, 5 mois avant l'élection présidentielle remportée par Trump face à la démocrate Hillary Clinton. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit lundi, aujourd'hui donc, pour discuter des violences meurtrières israéliennes et palestiniennes après l'installation de nouvelles mesures de sécurité aux entrées de l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Cette réunion, qui se tient en urgence à la demande de la France, de la Suède et de l'Égypte, doit examiner la façon dont les appels à la désescalade peuvent être soutenus, a déclaré samedi l'ambassadeur suédois à l'ONU, Karl Skou. Les talibans ont attaqué hier un hôpital dans un district reculé de la province de Gor au centre de l'Afghanistan, tuant 35 civils, a annoncé aujourd'hui le porte-parole de la présidence, confirmant des informations de sources locales. Les talibans ont par ailleurs revendiqué aujourd'hui un attentat en plein Kaboul qui a fait 26 morts et 41 blessés dans un quartier chiite de la capitale, selon un dernier bilan annoncé par la présidence afghane. Et puis, une semaine décisive aujourd'hui s'ouvre dans la crise au Venezuela, où l'opposition multiplie les initiatives pour tenter de bloquer l'élection prévue le 30 juillet de l'Assemblée constituante voulue par le président Nicolas Maduro. L'opposition a appelé dimanche au boycott de l'élection de l'Assemblée et a réitéré son appel à une grève de 48 heures mercredi et jeudi et à un grand défilé à Caracas. Ce sera vendredi, deux jours avant l'élection des 545 membres de cette Assemblée censée réécrire la Constitution. Jean-Roger Billon, fin de ce journal. Bon après-midi à tous et à bientôt.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.